Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Donc, un sujet simple pour terminer l'année. La figuration en peinture. Vous avez 5 heures.
Très simple. Je ne pensais pas que ce serait aussi simple, bien sûr. Mais il va falloir faire avec. Puisque, outre cette exposition dont vous allez parler de David Hockney au Centre Pompidou, eh bien, il y en a deux autres d'importance cette année. Une à la Tate Moderne qui a eu en début d'année. Une au MoMA de New York en ce moment. Bon, c'est vrai que David Hockney atteint l'âge de 80 ans. C'est pas étonnant qu'il y ait un certain regain d'intérêt, mais c'est intéressant de voir comment on s'intéresse à ce peintre qu'on a souvent classé, il faut le dire, entre pop et figuration, c'est ce que disait le Nouvel Observateur encore en 2012, et qu'on a identifié comme certains une grande œuvre puissante. Là, c'était A Bigger Splash, ce plongeon dans une piscine. En fait, de plus en plus, David Hockney fait bouger les lignes de partage, on pourrait dire, entre abstraction et figuration, puisque c'est bien le ton, sinon des expositions, du moins des articles sur le sujet. Le miroir d'eau des piscines de Los Angeles lui servit de prétexte à toutes sortes d'expérimentations picturales, la surface de la toile devenant le lieu d'une conversation entre la figuration et l'abstraction, écrivait Eric Troncy sur le site numero.com. Ou bien c'est la figuration de l'eau comme métaphore de la surface de la toile, c'est Didier Ottinger qui le disait dans cet article que vous signez, Elisabeth, dans Libération. Vous en reparlerez certainement, notamment de ces fameuses séries de Paper Pools, série sur des piscines encore. En d'autres termes, on pourrait dire, c'est Jérémy Billot qui le dit dans Exponote, la poétique de David Hockney réside en la retranscription picturale du moment vécu, pleinement vécu, au-delà de la figuration. En fait, le vrai sujet des figurations de David Hockney, c'est le passage du temps, la durée vécue dans le sujet. C'est ça, d'où cette idée d'une peinture de l'intime. Alors, j'expose ces considérations alors qu'un autre grand peintre, aux limites aussi de la figuration, lui aussi, comme Hockney en son temps, qui a été un peu négligé, Pierre Talcoat fait également en France l'objet d'un intérêt plus que renouvelé, vous allez voir. Peintre, je le disais, donc longtemps considéré aussi comme faisant la transition entre la figuration et l'abstraction, à l'époque de ce mouvement français qui a commencé dans les années 80. En fait, il y a eu un grand colloque à son sujet début juin au Centre culturel international de Cerisy, qui s'appelait Regards sans frontières, mais il y a aussi 8 ouvrages avec les catalogues d'exposition, 3 ouvrages originaux, 8 expositions en ce moment, en tout cas qui auront lieu cette année un peu partout en France. Et puis, petit miracle aussi, disait Olivier Sénat dans Télérama, quelques œuvres de ce qu'il appelle un génie oublié, aujourd'hui visible à Paris. Oublié, donc je le disais, classé aussi parmi les abstraits pendant pas mal de temps, dans quelques rares expositions en galerie, continue Olivier Sénat, dont une qui, je le cite, donne une idée de cette période justement faussement abstraite et extrêmement poétique, là encore, puisque reposant sur son observation de la nature, point commun avec Hockney, Talcoat, donc, ou comment mettre fin à l'antithèse aveugle du figuratif et du non-figuratif. C'est ce qu'écrivait notre chaîne France Culture sur son site. Un peu comme ces tableaux d'oiseaux en groupe, là, qu'il peint excellemment, le vol d'oiseaux. Là aussi, c'est du temps qui passe. Il faudrait savoir lequel. En tout cas, c'est une profusion très, très intéressante, au point que Connaissance des Arts se demandait si 2017 ne serait pas tout simplement l'année Talcoat. Alors, Hockney, Talcoat, cette revue ne serait rien sans parler de l'exposition Zeitgeist qui a lieu au MAMCO de Genève en ce moment. Une exposition qui propose, elle, je cite le dépliant d'exposition, une généalogie des pratiques figuratives et expressives de l'époque de l'émancipation d'une figuration jugée inutilement contraignante. On en arrive donc à présenter des peintures, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des sculptures, des nus, des paysages, des portraits, là encore, et même quelques vanité, et y compris cette fameuse peinture que je ne connaissais pas, mais apparemment un des clous de l'exposition et de l'époque, la Zeitgeist Painting numéro 2 de David Sall, qui résume à lui seul la controverse historique autour de la figuration. Bref, c'est l'éternel retour du figuratif, c'est ce qu'écrivait le journal Le Temps, et puis d'autres signes encore, on pourra en reparler. La figuration, c'est également ce sur quoi on met l'accent dans la grande exposition Templon, le galerie parisien à Bordeaux en ce moment. Les Inrecuptibles notaient 3 expositions sur la figuration libre, donc figuration française, qui avait lieu à Paris l'année dernière. Et puis Vice a écrit un long article à la fin, ou au milieu de l'année dernière plutôt, où il parlait, lui, d'une réponse figurative politique qui a lieu en ce moment au capitalisme et au lissage des corps, avec toute une nouvelle génération. Alors, je ne pensais pas poser cette question en commençant cette chronique, mais y a-t-il vraiment un grand retour de la figuration ? Quelle figuration ? Quel sens prend-elle ? Et surtout, pourquoi ?
Eh bien, donc vous avez effectivement 8 heures, je pense, Elisabeth Franck Dumas.
Oui, alors qu'il y a un retour à la figuration, ça c'est très très net, ça fait quelques années. Il y a le retour en grâce de peintres figuratifs, vous citiez Pertalquat, il y a Gilles Ayot aussi qui connaît un regain de grâce. Il y a pas mal de jeunes également. Elisabeth Payton, ça fait un certain moment aux États-Unis. Ah, oui. Thomas Lévillane en France. Enfin, il y a quand même beaucoup beaucoup d'artistes qui travaillent autour de ça. Je voulais juste revenir avant d'aborder cette nouvelle figuration sur Hockney. Je pense qu'Hockney, il rejetait l'abstraction en bloc, ça ne l'intéressait pas. Et je pense que quand on retrouvait chez lui, comme dans les Paper Pools, des techniques qu'il avait empruntées, par exemple à Ellsworth Kelly, de teinture dans la masse du papier ou que sais-je, c'était au contraire comme un espèce de pied de nez pour dire, bah tiens, ce plongeoir qui pourrait être chez Ellsworth Kelly avec cette matière, cette couleur travaillée, c'est une pure forme géométrique, mais que en la plaçant dans un contexte, je vais au contraire ramener vers la figuration et que c'était un petit pied de nez qui lui faisait assez plaisir. À part ça, pour les autres, bah oui, je pense que c'est très net, ça fait quand même quelques années, il y a qu'à se promener dans les galeries, énormément de jeunes peintures figuratives. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le positionnement d'énormément de ces artistes vis-à-vis de la photographie, vis-à-vis des réseaux sociaux. On sent vraiment très clairement, enfin, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire cette abondance, vraiment cet entourage visuel de photographie dont on est abreuvé absolument constamment. Mais justement, c'est une manière de se positionner par rapport à ça, par rapport à cette avalanche de photos venant de la pop culture. D'ailleurs, il y a énormément de sujets pop culture. Judica El Labrador avait fait un papier très intéressant dans Libération où il parlait des portraits de stars, de stars un petit peu déchus, trouvés sur Internet ou autres. Il y a énormément de jeunes artistes qui s'intéressent à ça. Payton aussi s'était intéressé à ça. Des photos, alors là, si on parle de Thomas Lévillane, les photos de soirée, des choses qu'on pourrait trouver sur Instagram ou autre. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait de cette matière, éminemment photographique, banale même, comment est-ce qu'on fait de ça de la peinture et qu'est-ce que la peinture a apporté par rapport à la photo? Et ça, je trouve qu'il y a une recherche qui est plus ou moins réussi chez certains ou chez d'autres, mais tenter de répondre à cette question, à savoir, il y a du temps déjà, enfin on apporte du temps, on apporte cette dimension de vécu, vous en parliez, ne serait-ce que pour peindre la toile, il y a un temps infiniment supérieur à celui de la photographie instantanée. Il y a aussi une intimité avec le regardeur, peut-être plus même qu'avec le sujet, puisque là, au contraire, la peinture introduit de la distance. Je trouve que c'est dans cette comparaison-là qui joue des choses assez intéressantes.
Annaëlle Pigeat.
Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, Elisabeth, ce mélange avec de la peinture et la photographie me semble effectivement un sujet très passionnant, d'autant que souvent la photographie, dans des travaux qu'on voit aujourd'hui, est sous la peinture, notamment lorsque la sérigraphie se mêle à la peinture. Et en fait, ça me conduit à l'idée que ce qui est intéressant, c'est de regarder les choses de manière non cloisonnée. Enfin, c'est une banalité, mais c'est quand même très vrai. C'est le moment où les choses se mêlent et où les genres se mêlent, où la photographie et la peinture se mêlent et où l'abstraction et la figuration se mêlent. Alors, pour cette question de la figuration, effectivement, elle est partout. Elle est partout aujourd'hui. Elle a longtemps été très absente.
Longtemps, c'est la peinture qui a été absente. On a eu le retour de la peinture il y a 20 ans, et maintenant on a le retour de la figuration en peinture. Qui est drôle. Enfin,
absolument,
c'est l'éternel retour. Hein.
Exactement. Et alors, il y a le poids de grandes figures que sont, par exemple, Neo Rauch, l'école de Leipzig qui a.
Je ne reprendrai pas sur l'accent, pas moi.
L'école de Leipzig qui a pesé très fort sur beaucoup de, et qui continue de peser sur beaucoup de jeunes artistes et qui se caractérise par cette présence très forte de la figuration et d'ailleurs qui est là aussi liée à la politique. Il y a de grandes figures aussi d'artistes internationaux qui sont tout à fait figuratifs, enfin tout à fait figuratifs là encore, on pense à Peter Doig, à Michael Bormans, à Luc Toymans aussi qui encore une fois sont toujours au bord des frontières. Mais alors finalement, le pendant de ce raisonnement, c'est que l'abstraction devient rare. si je me trompe pas. Je pensais par exemple à l'exposition sud-africaine qu'on a évoquée ici à la Fondation Vuitton, dans laquelle il y a peu de peinture déjà, mais quand il y a des images, en tout cas, ce sont des images figuratives qui toujours véhiculent un message politique, effectivement, comme si la fiction était souvent associée à la politique. Et pourtant, quand
on regarde la figuration, pas la fiction.
Oui, pardon, j'ai... et pourtant, quand on regarde la scène sud-africaine, des artistes abstraits qui s'intéressent aux questions de la modernité, il y en a dans les galeries, ça saute aux yeux, Zonderblom par exemple. Enfin, bon, les exemples sont nombreux, mais c'est pas forcément ce qui est le plus visible en ce moment. Et alors, ce que m'inspirait aussi votre propos... Xavier, c'est que finalement, ce qui est toujours le plus intéressant, c'est ce qui est entre deux. C'est aussi une chose qui est très répandue aujourd'hui, cet entre deux. Il se trouve que récemment, j'ai eu à faire un petit exercice qui était de trouver une liste de jeunes peintres abstraits. Et j'ai eu un mal fou à les rassembler. Et je me suis rendu compte que l'abstraction qui m'intéresse, en tout cas aujourd'hui, c'est précisément l'abstraction qui n'en est pas. Farah Attassi est au bord de ça. Si on prend des étrangers, par exemple Sam Windett, qui est un artiste anglais, s'intéresse aux questions, aux formes de la modernité aussi, mais de temps en temps, on voit apparaître une fleur ou on voit apparaître une plante, un pot de fleurs. Eva Nielsen, qui expose en ce moment à la Galerie Jousse, dans le Marais, à Paris, est exactement aussi dans cette ligne dans laquelle les images se mêlent et l'abstraction et la figuration se mêlent. Et puis, il y a aussi des artistes qui pratiquent à la fois et souvent de manière concomitante l'abstraction et la figuration de manière très radicale. Enfin, je dis de manière concomitante, par exemple, pour un artiste comme Josh Smith, américain, qui fait à la fois des palmiers avec des couchers de soleil et des compositions complètement abstraites. Et puis, il y a aussi des artistes qui se frottent à ces sujets. Si on prend, par exemple, l'exemple d'Alain Séchas, qui, pendant des années, a fait ses chats, les chats de ses chats, c'est difficile d'y résister, un peu en bande dessinée, qui, tout d'un coup, il y a quelques années, s'est mis à expérimenter des petits formats totalement abstrait, mais alors là, avec de manière assez peu discutable, qui ont finalement nourri d'une nouvelle manière la figuration à laquelle il revient aujourd'hui. Et tout ça, c'est des questions. Alors, c'est pas niveau, évidemment, on parlait de Cézanne, on parlait de la robe bleue, de la palette, on peut parler de Picasso aussi, qui fait tous ces allers-retours entre le cubisme, le retour à l'ordre. Enfin bon, c'est pas une chose nouvelle, mais c'est finalement toutes ces questions sur la peinture qui font qu'on aime ça, la peinture.
Ce serait presque une belle conclusion, Xavier Martinet.
Ouais, je retiendrai deux choses de ce qu'on disait, que effectivement il y a un retour de ces artistes dont on peut toujours se poser la question s'ils ont fait un usage qu'on pourrait dire abstrait de techniques figuratives, ou si c'était effectivement, disons, d'emblée essayer d'instaurer une perception complètement différente, puisqu'aujourd'hui on voit que l'intérêt qui est porté, c'est, comme vous le disiez Elisabeth, pour une perception non plus effectivement de l'objet ni du sujet, mais de la durée, une certaine temporalité, cette temporalité des oiseaux qui passent, ou du plongeon, le moment où on plonge pour Hockney. Et la deuxième chose là-dessus, je m'interrogeais sur ce que disait Weiss, encore une fois, sur une veine qu'on pourrait dire, et vous le disiez, politique en fait, de la figuration, qui serait venue en réaction par rapport à un art. Alors là, c'est Weiss qui le dit, capitaliste, mais la thèse n'est pas inintéressante non plus. Il parle du new cynism, l'essor de la néo-abstraction et du new cynism comme catalyseur. La réponse figurative fait sens, elle est d'autant plus significative qu'elle s'oppose violemment à l'uniformisation de la beauté abstraite encensée par la classe dominante. L'art abstrait sert la demande d'une élite qui ne saurait voir à ses murs des corps de la chair exposés sans filtre. Bref, l'art abstrait lisse les corps, et la figuration, elle, au contraire, fait et pense le corps comme digne d'être représenté dans toute sa laideur, sa beauté. Qu'en pensez-vous de cette thèse ?
Alors, là...
Je pense qu'il y a une question du... Enfin, ce qui n'est pas dit, mais je trouve que ce qui est sous-entendu dans les propos de Weiss, c'est aussi quand même la question du marché et les prix absolument
stratosphériques. C'est le début
de l'article, oui. Ah bon, alors j'ai pas lu cet article, mais quand on pense à l'art abstrait tel qu'il le décrit, cette espèce d'uniformisation esthétique, que sais-je, on pense tout de suite au prix absolument délirant qu'atteignent notamment une certaine forme d'abstraction américaine, soit années 70, 80, qui sont vraiment devenus des objets de déco, de salon. Ce qui n'était pas l'idée à la base, mais passons. Ouais. Je pense qu'il faut entendre ça aussi dans la critique, et c'est pas encore le devenir de cette nouvelle peinture figurative.
Annelle Pijat, bon, commentaire, dernier commentaire.
Cette dimension, enfin, je reviens sur le côté l'alliance entre la figuration et une dimension politique.
C'est ça.
c'est pas le cas non plus systématiquement. Et je pensais, quand vous parliez de, je reviens un peu en arrière, mais quand vous parliez de Talcott, à ces redécouvertes d'artistes, c'est quand même un peu ça aussi, ce sujet qui a été évoqué aussi précédemment dans l'émission. Je pensais par exemple à la figure d'Olivier Debré, qui a eu une grande exposition au CCCOD de Tours ce printemps, et qui est exactement aussi dans ce sillage de la fausse abstraction, d'une certaine manière. On a considéré longtemps, ou peut-être ceux qui le connaissaient mal ont considéré, dont je faisais partie jusqu'à l'exposition, ont considéré qu'il était un peintre abstrait. En fait, pas du tout. C'est une peinture qui est totalement liée à l'univers, aux univers dans lesquels il se trouve, à la Touraine, à la Norvège. Et donc peut-être que cette fausse abstraction n'est pas non plus une chose si récente, que l'on trouve tellement dans les écoles et dans les salons des jeunes artistes. Ça est aussi une chose qui existe un peu dans l'histoire.
Eh bien voilà, un point très conséquent. Beau travail, monsieur, mesdames. Nous avons cette question quand même abyssale.